Entretien avec Frédéric Lenoir, Paris, juillet 2012.
Et donc finalement, on peut faire un livre de convergence de points de vue spirituels à travers, fondé sur l'expérience intérieure. Pour ce faire, j'étais obligé évidemment de choisir non pas des représentants des institutions, non pas des dogmatiques, non pas des gardiens du dogme, parce que là évidemment c'est sur le point sur lequel toutes les religions diffèrent, mais j'ai été obligé de prendre des spirituels, des mystiques, parce que dans les courants spirituels et mystiques, ce sont des gens qui recherchent une expérience de vie intérieure, une expérience de l'absolu, ce qui fait qu'un lama tibétain peut parfaitement dialoguer avec un soufi musulman, avec un kabbaliste juif, avec un moine chrétien. C'est tout à fait possible. Alors que si vous prenez un imam, un rabbin, un curé, et puis quelqu'un qui représente la philosophie bouddhiste, ils n'arriveront pas à se mettre d'accord sur les concepts. Ils n'arriveront pas à se mettre d'accord sur les rituels. Parce qu'effectivement, ça fait partie de la culture. Mais lorsque vous êtes encore une fois dans l'expérience intérieure, et ben finalement, tous les spirituels, les sages de toutes les traditions vivent des choses similaires.
Un sage prit la parole et dit « Ô enfant des hommes, écoutez le premier noble enseignement sur le sens de la vie humaine. La plupart des malheurs de l'humanité viennent du fait que bien des hommes, surtout ceux qui exercent le pouvoir et possèdent la richesse, ne se sont jamais interrogés sur la signification de leur existence. Ils vivent suivant la pente de leurs pulsions et de leurs besoins matériels. Ils descendent inconscients, le fleuve de l'existence, tel des bûches ballottées par les eaux, sans jamais rien maîtriser du cours de leur vie. À ce compte-là, même les cadavres jetés dans la rivière descendent plus vite que les vivants. Mais est-il encore un vivant, celui qui ne vit que selon les besoins immédiats de son corps et étouffe les questions et les besoins de son âme? Pourquoi sommes-nous sur terre? Avons-nous chacun quelque chose de particulier à réaliser? Les événements qui nous arrivent sont-ils seulement le fruit du hasard ou bien ont-ils une signification? Avons-nous une destinée à accomplir? Sommes-nous le jouet de nos instincts et de notre éducation? Ou bien pouvons-nous acquérir une vraie liberté? Et si tel est le cas, comment en faire bon usage? Sur quel rocher fonder notre vie? Comment atteindre un bonheur véritable et durable? Comment nourrir notre âme autant que notre corps? Et comment faciliter la bonne entente de cet attelage de l'être humain? Notre esprit disparaît-il avec le corps physique? Continue-t-il d'exister dans une autre dimension? Voici les questions que devrait se poser tout être humain lorsqu'il comprend qu'il n'est pas qu'un animal soumis aux lois universelles du plaisir et du déplaisir, de l'attraction et de la répulsion. Lorsqu'il découvre qu'il possède un esprit ou une âme spirituelle, peu importe les mots utilisés, qui lui permettent de maîtriser son corps, ses émotions, ses pulsions. La grandeur de l'être humain, c'est qu'il est le seul être vivant qui puisse s'interroger sur la signification de son existence et lui donner une direction, un but. Mais malheureux l'homme qui n'a pas découvert le sanctuaire de l'esprit. Malheureux celui qui n'a d'autre préoccupation que de survivre. Malheureux l'homme qui ne se pose jamais la question « Comment vivre de manière proprement humaine ? » Comment mener une vie bonne ? Qu'est-ce qui est vraiment important et qu'est-ce qui ne l'est pas ? Comment devenir pleinement moi-même et être utile aux autres? Comment réussir ma vie, afin qu'à l'instant de ma mort, je puisse partir en paix et regarder derrière moi le cœur serein? Malheureux l'homme, qui ne sait pas qu'il possède deux grands trésors à l'intérieur de lui-même, la clarté de l'esprit, qui peut le rendre libre, et la bonté du cœur, qui peut le rendre heureux. Malheureux l'homme qui mène une existence semblable à celle des bêtes, enchaîné à ses instincts et seulement préoccupé des soucis matériels de la vie. Malheureux l'homme qui ne sait pas qu'il est un homme. Un sage prit la parole et dit : Nous avons non seulement un port à atteindre, une vocation à découvrir, mais aussi une source à trouver qui seule pourra désaltérer la soif inextinguible de notre âme. Bien peu d'hommes le savent qui préfèrent descendre le fleuve, comme tout le monde, plutôt que de remonter vers la source. Cette source, on l'a nommée de bien des manières dans le passé. L'union au divin, la liberté ultime, la réalisation de soi, l'éveil, le bonheur définitif. Peu importe son nom, une seule chose compte. Cheminer vers elle pour étancher à jamais notre soif la plus profonde. Un sage prit la parole et dit « Vous n'avez pas besoin, ô enfant des hommes, de savoir où se trouve ce port, ni où se trouve cette source, pour commencer votre quête et vous y rendre. Il suffit que vous désiriez de tout votre cœur atteindre ces nobles buts. Ce port et cette source sont cachés comme un trésor, mais ils ne cessent de nous donner des indices pour que nous les trouvions. » Il place sur notre route des personnes qui peuvent nous en indiquer le chemin. Il grave dans notre cœur une mélodie lancinante, un petit air de flûte qui nous met dans la joie lorsque nous en entendons quelques notes. Vous n'aurez besoin ni de cartes, ni de boussole. La faim et l'envie sincère de découvrir ce port guideront votre barque. La soif et la détermination à remonter à cette source conduiront vos pas. Si vous écoutez les désirs profonds de votre âme, si vous cherchez à les réaliser, alors l'âme du monde vous guidera. Un sage prit la parole et dit « La difficulté vient du fait que nous confondons bien souvent cette faim et cette soif de notre âme avec celle de nos désirs sensibles. La soif des sens apporte bien des plaisirs. Mais elle est aussi un piège redoutable, car elle peut nous égarer sur la mer sans port ou la montagne sans source. Si nous n'en sommes pas conscients, nous errerons toute notre vie de désir sensible en désir sensible, de satisfaction des sens en satisfaction des sens, sans être jamais satisfait. C'est pourquoi un ancien maître de la sagesse a pu dire qu'il fallait éteindre la soif pour atteindre un bonheur véritable. Il ne parlait pas de la soif de l'esprit en quête de sagesse, mais de celle sans fin des sens et de l'attachement qui nous maintient dans la douleur de la loi du désir et de la frustration. » Un sage prit la parole et dit « Notre monde actuel est pris dans cette frénésie du toujours plus, de l'activisme, de l'accumulation des richesses, alors que l'homme a besoin de bien peu de choses pour être heureux. L'essentiel de son bonheur ne relève pas de ses possessions, mais de la paix de l'âme. Le contentement apporte le bonheur, même dans la pauvreté. L'insatisfaction apporte le malheur, même dans la richesse. Il n'y a pas de pire fléau que l'esprit de convoitise. Comme l'a affirmé un ancien maître de la sagesse, le bonheur, c'est de continuer de désirer ce qu'on possède déjà. » Un sage prit la parole et dit « Tant que vous le rechercherez à l'extérieur de vous, dans la jouissance des objets ou des personnes, votre bonheur sera fragile et instable. Et cela pour trois raisons. La première raison, c'est qu'il est difficile d'obtenir tout ce que nous convoitons. Nous pouvons rêver d'avoir toujours un corps en bonne santé, d'acquérir une belle maison, d'avoir une vie amoureuse épanouie et une vie de famille harmonieuse, de s'investir dans une activité professionnelle passionnante, d'avoir un succès grandissant dans nos activités. Mais combien il est difficile d'obtenir tout cela. Nous mettons toute notre énergie à obtenir ce que nous désirons, et bien souvent nous n'y parvenons pas. Alors nous sommes frustrés, déçus, tristes ou en colère contre la vie. La deuxième raison, c'est que les choses extérieures auxquelles nous aspirons sont soumises à une grande loi universelle, celle de l'impermanence. Tout dans le monde est soumis au changement. Rien n'est stable, permanent, définitif. Les choses changent, les personnes changent, tout est en devenir. Nous cultivons notre corps et sommes en bonne santé, mais il peut tomber malade ou avoir un accident. Nous vivons avec une personne dont la présence nous est indispensable, mais elle peut partir ou mourir. Nous avons un métier ou une activité qui nous passionne, mais ils peuvent cesser à cause d'événements extérieurs sur lesquels nous n'avons aucune prise. Nous possédons une magnifique voiture ou un tableau de maître. On peut nous les voler. Nous avons bâti un empire, mais aucun empire ne dure. Nous avons accumulé un immense trésor, mais demain nous mourrons et n'emporterons rien dans la tombe. La troisième raison, c'est qu'en orientant notre désir vers les choses extérieures et les objets matériels, nous ne trouverons jamais le repos. Par nature, l'homme désire toujours autre chose. Regardez un enfant. Il semble satisfait de son jouet, et puis il voit un autre jouet dans les mains d'un autre enfant. Il se désintéresse du sien et désire spontanément l'autre. Le désir de l'homme est mimétique. Il désire toujours ce que l'autre possède. Connaissez-vous la différence entre l'enfant et l'adulte? La taille de son jouet. Dans l'ordre de l'avoir, le désir est sans limite. Pour être heureux, l'homme doit quitter la logique de l'avoir pour passer à celle de l'être. Son bonheur ne tiendra plus à la possession des objets extérieurs, mais à une qualité d'être. Et tout le sens de la vie, c'est justement d'apprendre à être bien, au-delà de ce que l'on possède, des objets ou des personnes qui nous donnent du plaisir, des événements qui surviennent. C'est de découvrir que le bonheur et le malheur sont à l'intérieur de nous, et non dans les choses ou les événements extérieurs. Un sage prit la parole et dit « La richesse n'est pas un mal en soi, bien au contraire. Ce qui compte, c'est l'attitude intérieure que chacun a vis-à-vis de l'argent. Un homme riche peut être généreux et véritablement détaché à l'égard des biens qu'il possède, et un homme pauvre, très attaché aux faibles biens qu'il possède et dans la convoitise permanente. » Un sage prit la parole et dit « Mais hélas, bien souvent, les hommes riches ne voient plus le monde qu'à travers la couleur de l'argent et du pouvoir qu'il leur procure. Cela ne les rend pas plus heureux pour autant. Un homme très riche et un homme très pauvre avaient chacun un fils. L'homme très riche monta avec son fils en haut d'une colline, lui montra d'un geste le paysage autour d'eux et lui dit « Regarde, un jour, tout cela sera à toi. » Le fils ressentit sur le moment un grand plaisir. Mais en redescendant de la colline, son bonheur fut troublé par la crainte que son père change d'avis, ou bien qu'il ne vive pas assez longtemps pour obtenir ce gain. L'homme très pauvre monta avec son fils au sommet de la même colline, lui montra le paysage et lui dit simplement « Regarde. » Le fils resta là et contempla la beauté du monde, le cœur rempli de joie. Un sage prit la parole et dit « La grande ambition qui doit guider ta vie, c'est de développer le meilleur de toi-même. C'est de te transformer pour atteindre un état intérieur de paix, de joie, de sérénité, que rien ni personne, pas même la mort, ne pourra t'enlever. C'est d'être la meilleure personne possible et d'aider les autres en apportant ta petite pierre à la construction du monde. Comme le disaient les anciens maîtres de la sagesse, songe que chaque jour est une vie, et hâte-toi de bien vivre, plutôt que de vouloir vivre longtemps sans te soucier de vivre selon le bien.